reconnaître déesse partout. Parce que il n'y a pas une transition écologique, mais plein de transitions. Et on voit bien d'ailleurs que toutes. C'est-à-dire que quelque part, il faut faire des choix même là. On ne peut pas tout faire. Tout n'est pas forcément cohérent. Et donc, il faut choisir et prioriser. On a pour discuter ensemble, donc d'un côté, je vais dire la plus belle face de la facture instrumentale. Il y a beaucoup d'actions de transition écologique dans la facture instrumentale, beaucoup d'initiatives. Le boulot de la chambre, c'est essayer de structurer, de nous faire une feuille de route, on y travaille. On est un peu percuté par l'actualité, mais dans tout ça et dans nos compagnonnages, et je ne sais pas si Mickaël est encore là, mais on avait un rêve qui était que c'est compliqué de porter à la fois la transition écologique et de porter les intérêts des professionnels. C'était des messages qui étaient troublés et troublants pour nos interlocuteurs. Mais on savait que dans nos actions, il y avait une part qui relevait vraiment de l'intérêt collectif sur la transition écologique. Et ce projet, il s'appelle Initiative en Musique. Jacques Carbonneau, qui fait plein de choses, en est le président. Et il va nous en parler. Philippe Bouillou à ses côtés, luthier guitare. Il fait partie de ces nombreuses personnes qui sont fondamentalement engagés, investis dans ces sujets, et qui, à travers plein d'idées, mais notamment le bois, la provenance du bois, ce qu'on pouvait faire avec les acteurs locaux, va nous raconter une déclinaison possible de ce que ça peut être la transition écologique innovante et, je dirais, et raisonnable et raisonnée du secteur. Après, on posait toute la question de la réalité économique de la haute restauration des pianos. On pourra se poser la question de la réalité économique, est-ce que ça fonctionne, où est-ce qu'on le situe ça. Et puis, pour compléter le panel, parce que ce n'est pas juste de parler entre nous, on a Chloé Press, hein, c'est bien ça, je vous demande. Elle est ingénieure en transition écologique. Et elle a rejoint l'équipe d'Arviva il y a
Un an et demi.
Alors Arviva, elle nous en parlera beaucoup mieux que moi, mais Arviva, c'est une association qui s'est montée à l'initiative d'acteurs de la vie musicale pour, au départ, réfléchir et puis finalement accompagner et organiser les transitions écologiques dans la filière musique. Mais jusqu'alors, nos deux chemins sont plutôt parallèles et j'espère qu'on pourra travailler en convergence. Il manque un acteur autour de cette table, c'est le monde de l'université de la recherche, d'une manière assez paradoxale, alors que le sujet de transition écologique semble être le sujet peut-être le plus bateau, ça a remplacé le mal de dos, quoi. Il y en a dans tous les magazines, et en fait, on n'a pas trouvé d'acteurs disponibles. Alors, on leur a fait un peu peur parce qu'on sait que nous, on n'est pas observés de façon globale par le monde des chercheurs sur la facture instrumentale. Et même, visiblement, le spectacle vivant, le filière musique, on a eu du mal à trouver des interlocuteurs. Alors, peut-être, et ça va être à mon tour de rendre du jazz, en fait, c'est parce qu'il était là, il existait, et il s'appelle François Ribac, et c'est celui qui nous manque aujourd'hui. Mais du coup, on va aussi dédier cette table à ce formidable monsieur qui aimait beaucoup. Tout autant. Et on va travailler et échanger pendant cette heure ensemble et commencer ce bout de chemin pour voir si déjà on peut commencer à avoir des convergences idéologiques. Je propose j'hésite encore. Si tu veux bien, Chloé, on va commencer par notre côté, ce qui ne t'empêchera pas de faire une présentation complète. Tu n'as pas à réagir par rapport à ça, mais. Vas-y, à toi Jacques, et là, c'est là où j'ai l'habitude. Non, je me dis.
Imposant.
Ok, on va revenir à l'endroit.
Voilà. Alors, l'initiative Arbre et Musique, comme l'a dit Fanny, c'est un outil qu'on a
souhaité, alors quand on dit « on », c'est les artisans qui viennent de la CSFI, mais aussi les artisans qui viennent des associations qui adhèrent à la CSFI, de créer un outil qui ne soit pas une organisation professionnelle, mais qui soit plutôt une ONG pour, un, effectivement, préserver les bois, et qui dit préserver les bois, c'est préserver les forêts. Et deuxièmement, pourquoi ne pas être une organisation professionnelle ? Parce que tout simplement, on voulait un outil qui permette de défiscaliser les dons, qui n'était pas possible.
Non,
on a quand même. Ah si, je me suis battu pour avoir un réflexe fiscal qui nous a été refusé une première fois. J'ai persisté et on l'a eu. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, tous les dons qui pouvaient être faits pour des replantations qui étaient déjà initiées par la CSFI, par la DLG, tous ces dons n'étaient pas défiscalisés. Donc pour avoir un peu plus de dons et permettre effectivement à ces gens de défiscaliser, on a créé cet outil initiative Arbre et Musique. Et donc la musique au service des forêts, donc si tu peux aller sur la slide suivante. Et ça vient d'un constat, qui est triste, qui est, malgré effectivement les avancées technologiques, les instruments traditionnels et leur savoir-faire continuent de séduire les nouvelles générations. Pour vous donner un exemple, et au niveau de la guitare, en 1999, quand j'ai fait le premier site internet, laguitare.com, qui recensait tous les artisans, il y en avait moins d'une centaine. Aujourd'hui, il y en a près d'un millier. Donc on est passé en 26 ans à x10. Donc c'est un métier qui passionne, même si effectivement c'est pas facile, et il le dira. Faire de la musique ou créer des instruments de musique, c'est pas ça qui va faire devenir riche, c'est vraiment un métier de passion. Ce savoir-faire perdure. Cependant, l'avenir de leur savoir-faire et l'avenir des matériaux qu'ils utilisent, notamment le bois, sont vraiment menacés par deux défis majeurs, la déforestation mondiale et le renforcement des réglementations. Au niveau effectivement des bois et des arbres, 38% des espèces d'arbres sont menacées. Et ça, c'était il y a 2 ans. Donc on peut imaginer qu'on a plus de 40% à ce jour. Et parmi les bois qu'on utilise en facture instrumentale, j'ai fait une étude il y a quelques années, et 46% des espèces en lutherie sont menacées. Et 68% de ces 146 espèces sont tropicales. Et 60% d'entre elles sont menacées. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, les raisons. Les raisons classiques, on va dire, de la déforestation, les causes, c'est l'élevage intensif et les cultures, l'urbanisation et effectivement le mobilier, parce que le mobilier de luxe, c'est notamment en Chine, et utilise tous nos bois précieux, les acajous, les palissandres, les hélènes. Et donc tous ces bois qu'on utilise en petite quantité sont massivement utilisés par ces grosses industries. Et on le voit sur cette étude qui est à droite, sur cette infographie. Là, c'était sur les palissandres en 2018. 95% de ces palissandres sont utilisés par d'autres secteurs industriels que la facture instrumentale. Et si on va un peu plus loin, donc les 5% du secteur des instruments de musique, 5% de ces 5%, c'est les artisans, et 95%, c'est l'industrie. Et parmi, en France en tout cas, il faut savoir que 85% des fabricants sont des artisans. Donc, nous sommes les dommages collatéraux de cette déforestation, mais aussi les réglementations. Si tu veux, ça se passer à la suivante. Alors, il y a deux réglementations qui nous concernent. Indirectement, celle qui va être mise en place à la fin d'année, qui a été reportée 2 fois déjà, c'est le règlement de la déforestation de l'Union européenne, qui prend la place du règlement des bois de l'Union européenne et qui impose effectivement toute importation d'être tracé, et tracé à un point tel que c'est au niveau de la parcelle. C'est-à-dire que si vous avez un bœuf, vous allez déforester, il faut donner la parcelle, la géolocalisation de la parcelle où a été coupé le bois. Et c'est le règlement de la déforestation. L'instrument de musique n'est pas dans le champ d'application. Par contre, tous les bois qui sont utilisés sont impactés par cette réglementation. Par contre, il y a une autre réglementation, là, pour le coup, qui nous impacte directement, et en ce moment, c'est vraiment très, très stressant, c'est la CITES, qui est une convention qui existe depuis 1975, et qui a pour objectif la réglementation des espèces de la faune et de la flore sauvage face au commerce international. Donc tout ce qui passe une frontière et qui est menacé, qui est réglementé par la CITES, doit être sont soumis à des permis. Et le mécanisme, c'est un système de trois annexes. L'annexe 1, c'est interdiction totale. Vous pouvez faire du commerce, mais vraiment avec des dérogations et une tonne de papiers qui justifient que voilà, vous avez ce bois qui a été puisé dans la nature avant la réglementation. L'annexe 2, où l'espèce n'est pas vraiment...
n'est pas éteinte encore
en cours d'extinction, mais qui nécessite quand même des permis. Et là, nous avons pléthore. Il y a tous les acajous sud-américains, il y a certains ébènes de Madagascar, tous les palissants, du Guingamp, comme je vous l'ai dit, 60% des espèces qui sont menacées. Et donc le champ d'application il est mondial, c'est 184 pays qui l'appliquent, qui sont signataires. Tu peux aller sur la suivante. Alors, l'objectif, parce que je ne vais pas rester sur la synthèse, parce que moi, on y resterait des heures. L'objectif d'initiative Arbre et Musique, c'est en fait, c'est du bon sens. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû appliquer depuis le début des temps. C'est de dire, dès qu'on prélève quelque chose dans la nature, on renouvelle cette ressource. L'être humain n'a fait que puiser dans les ressources naturelles, quelles que soient ces ressources, sans imaginer qu'à un moment donné, il y en aurait plus. Là, on voit le pétrole en ce moment, comment ça se passe. Donc, pour les bois, c'est un peu pareil. Donc, l'objectif un peu d'initiative Arbre et Musique, c'est d'essayer d'imaginer un cycle vertueux qui est vraiment du bon sens. C'est la conservation, la restauration des habitats. Donc, c'est de protéger et restaurer les régions d'origine des espèces qui sont menacées, qui sont utilisées dans la facture instrumentale. Un deuxième point, c'est la gestion durable des ressources. C'est de préserver les populations sauvages et garantir, grâce à une gestion appropriée, la traçabilité des produits forestiers, tout en continuant à encourager et développer les plantations assistées par l'homme. Il n'est pas question de faire de la monoculture. La monoculture, ça n'a aucun sens écologique. Il faut préserver la biodiversité. Troisième point, la diversification des matériaux. Donc développer et promouvoir des matériaux alternatifs. Et là, effectivement, les chercheurs sont d'une grande aide. Les scientifiques nous aident beaucoup à trouver justement des alternatives, pour caractériser les bois, dire que tel bois exotique va être remplacé par tel bois local. Et notamment, effectivement, et là on essaye aussi de sensibiliser les industriels, de ne pas utiliser les ressources qui sont utilisées par l'artisanat pour faire des instruments d'étude qui sont plus jetables que d'autres instruments de luthier. Et donc ça, c'est effectivement afin de réduire la pression sur ces espèces clés. Après, il y a la traçabilité, on s'est assuré une transparence totale de l'arbre jusqu'au produit fini, afin effectivement de savoir d'où il vient et pour effectivement préserver cette traçabilité et surtout répondre aux réglementations. Parce que sans cette traçabilité, on est vraiment très contraint par ces réglementations. La sensibilisation, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui aussi, c'est promouvoir la recherche et l'éducation afin de renforcer la compréhension et la sensibilisation de toutes les parties prenantes du secteur. Et le sixième point, c'est de prouver que la musique et l'instrument de musique est un allié aux forêts. Donc c'est vraiment, cette association est vraiment là pour la préservation des forêts par le prisme de l'instrument de musique. Alors les deux, je voulais juste vous présenter deux projets pour montrer qu'on est impliqué, qu'Initiative est impliquée donc dans un PEPR Forest Do for Change. Donc c'est les forêts domestiques en transition, repenser la résilience et la gouvernance d'une interface socio-écologique et en changement. L'instrument de musique n'était pas du tout prévu dans ce programme et on a appelé, parce qu'il y avait une connaissance avec ces scientifiques, et du coup ils ont trouvé très pertinent l'idée effectivement que l'instrument de musique puisse être un vecteur de sensibilisation. Et par exemple, il y a trois espèces qui sont étudiées, le cormier, l'oléastre, qui est au Maroc, et le chawari, qui est en Guyane française. Et l'idée, c'est de caractériser ces bois pour voir, parce que le cormier était très utilisé avant, mais a été complètement abandonné dès lors qu'il y a eu les colonisations et la découverte de ces bois tropicaux. Et maintenant, on essaye justement de redonner vie à cette espèce. Il faut savoir que cette espèce a disparu en France, ou en tout cas a perdu ses peuplements qui étaient vraiment très forts sur le territoire. Pourquoi ? Parce que les usages n'étaient plus utilisés, enfin n'étaient plus d'actualité. C'était quoi les usages ? C'était le fruit le corps qui était remplacé par la peau avec la peur, et le voix qui était très utilisé aussi parce que c'est un voix très dense. C'était justement substitué par des voix tropicaux. Et là, l'idée, c'est effectivement de, avec un scientifique, de caractériser ces voix et de voir effectivement qui peuvent être utilisés pour telle et telle partie d'instrument. Et on va le faire aussi pour les autres espèces, et du coup, ça a donné l'idée de faire la même chose pour d'autres secteurs d'activité, d'artisanat, et de dire voilà, s'il y a une demande, un usage possible pour ces bois pour je ne sais pas quelle utilisation, ben on va le caractériser scientifiquement. Donc voilà, donc ça c'est un projet, et puis un autre projet, Demain les forêts, donc ça c'est le projet érable, mais là il vient juste de débuter, et là c'est la musique, c'est l'art. Qui vient appuyer ce projet de la préservation des forêts. Donc il y a une double activité, il y a l'utilisation de l'art comme vecteur de communication et l'autre vraiment sur les paysages. Et je pourrais rebondir, je ne sais pas si on passe à Philippe.
Tu fais une toute petite phrase sur les musiciens dans ce projet.
Alors les musiciens, oui, parce que nous avons tout de suite ce que j'ai voulu faire, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est faire porter ce message par des musiciens. Et il y a une musicienne qui s'engage déjà pour la nature, donc on s'est rencontrés, elle avait déjà des projets, c'est Olivia Gay, qui est violoncelliste, et qui fait un projet qui s'appelle La Nuit des Forêts, le silence des forêts, où elle fait un spectacle in situ en forêt, et elle présente, donc elle joue ses morceaux, et elle présente sous forme de poème. La graine de l'épicéa qui pousse, qui devient un arbre, et après qui devient un violoncelle. Et nous, on est intervenu sur cet événement. Au fil de Bouillou est intervenu dans un événement en Val-de-Sujon, dans le Bourgogne. Et l'idée, c'était de faire une conférence de lutherie avant le concert et après une visite en forêt. Et ce qui était très intéressant, c'est que le public, on est venu avec des morceaux de bois brut, c'est-à-dire pour le violoncelle, donc c'est des grosses planches d'érable, les manches, l'érable, et les gens étaient complètement captivés de voir l'avant et l'après, parce qu'il y avait le violoncelle qui était sur scène, et du coup, il y avait plein de questions après, et on se rend compte que même si on est un peu transparent, dès lors qu'on présente l'instrument de cette façon, là, les gens découvrent et sont passionnés. Donc ça, c'était très intéressant. Et donc, effectivement, les musiciens sont aussi un vecteur de communication et de sensibilisation des groupes.
Merci. Philippe Bouillou, à toi la main. Explique-nous, s'il te plaît.
Moi, je suis pas un très vieux luthien, j'ai 10 ans de lutherie. J'ai eu une autre vie pro avant, je bossais pour Radio France, j'étais dans le son, j'étais un G-son, j'ai fait 20 ans dans cette grande maison, ronde, qui est très belle et qu'il faut sauvegarder, ça n'a rien à voir. pour le coup, assez rapidement, quand je me suis installé, j'habite près de Dijon, je ne suis pas bourguignon, je suis périgourdin. J'ai grandi à la campagne, dans la forêt, enfin, pas dans la forêt, j'étais dans une cabane, mais avec un grand-père agriculteur, un père à moitié agriculteur, enfin voilà, j'ai quand même quelques racines du terroir. Et pour moi, donc, il y avait aussi cet esprit de bon sens paysan, en fait, d'aller au plus près, en fait, des ressources. Quand j'ai commencé à toucher à la lutherie, bien sûr, je voyais tous les bois exotiques et tout ce, voilà, tout ce team. Et au final, les choses se sont faites assez naturellement. À 50 mètres de chez moi, j'ai un très joli château avec un très grand parc. Enfin, avec un très grand parc. Et là, bah, des frênes étaient abattues et beaucoup de frênes parce que bah, c'est la Calarose qui les dessine tous. Les projections de l'ONF sur le frêne, c'est 10-15 ans. Voilà. Le hêtre, c'est 10 ans. Le hêtre, on ne l'utilise pas en lutherie, mais il est énormément utilisé en ameublement, par exemple. Donc, c'est une vraie problématique aussi pour eux. Et donc, j'ai acheté ces premières grumes de frêne. Et alors, j'étais content. Hein, j'avais un truc de 3 mètres de long sur 1,20 m de diamètre et je ne sais pas trop quoi en faire. Surtout, j'avais pas de quoi le couper, voilà, le déliter, tout ça. Et puis, comme je ne sais pas trop faire les choses à moitié, à l'heure actuelle, 10 ans après, je me retrouve à avoir acheté un terrain pour pouvoir stocker mes 50 mètres cubes de bois brut. que j'ai glané avec des particuliers ou bien avec l'ONF, parce que j'ai mis en place avec les techniciens de l'ONF d'abord de mon village, parce que j'étais adjoint et que je bossais avec lui. Et puis ça s'est étendu vraiment à toute ce qu'on appelle l'UT, l'unité territoriale chez l'ONF, donc une zone sur laquelle les techniciens travaillent et gèrent les forêts. Et en fait, le constat, il était simple, c'est qu'un jour, j'ai croisé ce monsieur de l'ONF et je lui ai dit, écoute, ça fait un mois et demi, deux mois que je passe tous les matins devant une énorme grume qui est au bord de la route et qui est en train de pourrir. Donc, enfin, vous faites quoi? Pourquoi vous coupez des arbres pour les laisser en bord de route et les laisser pourrir? C'est complètement débile. Voilà, mais ça ne vous ressemble pas, messieurs et mesdames de l'ONF. Et là, il m'explique qu'en fait, et ça devait être un érable, je crois que c'était un sycomore. Il me dit, mais il sort d'une coupe qui était juste à côté, et le marchand de bois ne l'a pas pris parce que de toute façon, il n'en fera rien. Parce que cette coupe, c'était une hêtraie, donc une coupe de hêtres, et que dans une hêtraie, il n'y a pas que les hêtres. Hein, voilà, il peut y avoir, par chez moi en tout cas, il va y avoir des sycomores, il va y avoir des érables planes, il va y avoir quelques merisiers parfois. Un cornier, voilà, qui traîne, et ils essayent de pas les couper, sauf que après il y a la réalité, c'est-à-dire que la réalité en forêt, c'est pas des bûcherons avec des casques qui viennent au pied de l'arbre avec des tronçonneuses. Ils le font en dernier recours quand ils ne peuvent pas faire autrement. 99% du temps c'est des machines qui vont couper, c'est des machines qui sortent les grumes de forêt qu'on appelle des débusqueurs. Un débusqueur, ça fait entre 10 à 20 tonnes. Donc, ça écrase tout le sol forestier. Donc, pour préserver le sol forestier, ils font ce qu'ils appellent des cloisonnements sur les parcelles, d'abord sur carte, en fait. Et donc, ils font des routes pour ces machines-là, pour éviter d'aller endommager le reste. Malheureusement, sur ces routes-là, eh bien, parfois, il va y avoir un cornier, un merisier, un érable, machin, et l'industrie ne sait pas en faire quelque chose à part, au mieux de la pâte à papier, du bois de chauffe, ou bien, et donc du déchiquetage ou ce genre de choses. Donc, il faut donc être conscient qu'un sacré paquet d'arbres de très belle qualité, finit en fumée, soit dans des chaufferies bois, voilà, ça c'est un autre sujet, un autre débat, mais ou en papier. Donc l'idée, ça a été à mon petit niveau de dire, coucou, j'existe. Voilà ce que moi j'utilise comme type d'essence. Et j'ai un panel assez large parce que je fabrique encore pour l'instant que des instruments électriques, et donc des guitares et des basses électriques. Et donc on est assez open. Les bassistes sont encore plus open que les guitaristes. Il ne faut pas le dire trop fort. Sur le choix des bois, on n'a pas comme en acoustique, en guitare acoustique, où voilà, on a les tables et qui seront voilà, en épicéa, en cèdre ou bien en acajou, à la rigueur. Mais, voilà. Et donc, à partir de là, c'est mis en place d'abord vraiment très très localement avec cette personne de l'ONF. Et puis après, ça grossit tout ça. J'ai rencontré un des chefs. Et puis, j'ai reçu une trentaine de personnes de l'ONF à l'atelier, donc de toute la Côte d'Or, de toute la Saône-et-Loire, et même Franche-Comté, hein, il y a des gens là, du Doubs et du Jura. Et pour leur expliquer le métier, alors, mon métier, mais au final nos métiers de buterie et de facteurs d'instruments, et ce dont on pourrait avoir besoin éventuellement. Et en leur disant juste, ça ne coûte rien, juste de proposer. En fait. On vous dit oui, on vous dit non. Après, il y a des questions logistiques. Je parlais en rigolant de cette ligne de 3 mètres et d'un mètre 20, mais je ne rigolais pas du tout quand je l'ai eu. Et j'en ai encore un exemple là. Un énorme frêne ondé. Donc, oui. Voilà, on est sur une pièce qui est magnifique. C'est un arbre qui a je ne sais pas combien d'années, 150 ou 200 ans, pas loin, je pense, qui a été coupé parce que devenait dangereux dans une commune, un peu loin de mon atelier, mais et j'ai encore deux grumes à récupérer, des grumes de 3 mètres sur 1 mètre 50 ou 60. Et là, bah, c'est pareil, c'est la question logistique qui se pose. Donc, l'initiative, elle est là, la volonté, elle est là. La chose délicate après, c'est la mise en œuvre de toute la logistique pour pouvoir aller chercher le bois, le faire scier, parce que des bois de plus d'un mètre en France, on ne les scie pas. Il n'y a plus rien. Il faut aller en Afrique pour ça. Parce que non, il n'y a plus aucun manci, ou peut-être un ou deux manci dans toute la France, qui scie des grumes de plus d'un mètre de diamètre. Donc ça veut dire une logistique aussi en série, d'aller d'abord à la tronçonneuse pour venir ouvrir la grume, pour pouvoir après vraiment faire des quartiers. Et moi je ne cherche pas forcément le quartier en plus, mais voilà, pour faire le quartier, pour pouvoir, pour que ça passe dans les machines. Ensuite il faut l'emmener, le stocker convenablement, et ensuite là on est sur ce qu'on appelle des plots, voilà, donc hein, des plateaux d'un arbre qui a été coupé, qui sont mis avec des épingles pour qu'ils puissent sécher. Donc voilà. Moi, je ne fais pas de séchage en séchoir, donc c'est vraiment que du séchage naturel. Donc c'est un certain temps. Et puis ensuite, il y a la deuxième transformation, d'aller prendre un plateau, sortir la tronçonneuse, venir faire les gros prédébits, puis ensuite venir faire vraiment les prédébits où on se rapproche des débits finaux avant le travail. Et voilà. Donc tout ça, c'est une démarche qui est très longue. Financièrement, est-ce qu'on s'y retrouve ou pas? J'en sais rien, et au final, je m'en fiche. Hein, parce que.
C'est pas ça, non.
Alors, au final, si, parce que si je devais acheter le même stock de bois que j'ai déjà prédébité à des vendeurs de bois, et enfin voilà, c'est pas possible. Hein, je devrais hypothéquer la maison, je pense.
T'en aurais un peu moins.
J'en aurais sûrement un peu moins. Mais c'est bien, c'est rassurant. Voilà. Et l'ONF a vraiment joué le jeu. Il joue encore le jeu. Là, ce frais mondé, ce fameux frais mondé, c'est quelqu'un de l'ONF qui m'a appelé en disant « J'ai ça. La mairie ne sait pas comment faire. » Et voilà, je leur ai parlé de toi.
Et l'association aussi, la PLG.
Et voilà. Et après, donc, avec la PLG, donc l'Association professionnelle des métiers en guitare, où je fais partie. Et bien, en fait, ce stock de bois, j'aurais pas assez de toute ma vie, que j'espère très longue, pour utiliser ce stock de bois. J'ai pas l'impression que mes enfants prennent le chemin de la lutte, mais quoi que, on ne sait jamais. Et donc l'idée, bah, c'est de pouvoir faire bénéficier de mes récoltes, entre guillemets, aux copains et copines de la PLG, et voilà, et que en fait ça sert, que ces arbres. Alors c'est un peu. Moi, ma pensée dans tout ça, elle est un peu. Ça fait un peu amérindien, mais c'est vraiment ça. Je l'ai vraiment, moi, ce truc-là. C'est que les arbres qu'on utilise étaient là avant nous. On se doit donc de les respecter. On les coupe pour raison X ou Y, c'est une chose. Une fois qu'ils sont par terre, là, on les respecte et on en fait quelque chose avec. Et tant qu'à faire, si on fait un instrument de musique avec, alors là, c'est vraiment génial parce qu'on les fait vivre. Enfin, c'est voilà, ma vision de la chose.
Vous n'êtes pas là ce matin, mais...
Vous en étiez ce matin. Ouais,
ouais.
Non, tu l'avais entendu, mais Christine Sinapi, qui a fait des recherches sur toute la chaîne du violon autour de Crémone, des gens, des bûcherons qui se sont transformés en spécialistes du bois nutri, disaient exactement la même chose.
Donc, oui, mais c'est...
Mais c'est normal. Et moi, qui suis luthière violon, pour nous, ce sont... C'est une évidence. Alors, quelquefois, on ne va pas aussi loin à monter la chaîne que toi, tu le fais. Alors, évidemment, se pose la question du volume par rapport aux besoins. Et c'est pour ça que le fait d'avoir une association luthier derrière pour faire une espèce de banque de bois disponible, c'est un exemple très vertueux et très intelligent, parce que c'est vrai que ces questions qui se posent, il y a, pour les plus anciens, hein, on pourra se souvenir que dans les années, je pense que c'est 90, l'ONF avait fait tout un plan autour des bois nutri. Avec une. Ah, toi-même, tu ne sais pas, je te passe la bouteille. Pour valoriser le bois nutri, et là, c'était notamment pour les bois nutri du poids dur, parce qu'à l'époque, on besoinait beaucoup là-dessus. Et ça avait pris un certain élan, et on voit que c'est fini, ça s'est oublié. Et ce qui est plus. Là où c'était plus facile, c'est que ces enjeux, et je les ai entendus, parce qu'en charpentine marine, ils ont exactement le même souci, dans toute cette, en fait, cette activité patrimoniale, c'est les billes de gros arbres, eh bien on ne sait plus les travailler. Et paradoxalement, les billes de bois les plus réguliers, on sait très bien les exporter, ou les utiliser ça, ces magnifiques villes sont difficiles. Hein. Donc ça, c'est cet axe, c'est un exemple de ce que ça peut être une action de transition écologique dans le secteur. Alors évidemment, ça ne se limite pas à ça. On a évoqué l'économie de l'usage, tu l'as évoqué sur la table ronde d'économie. On commence à raisonner, parce qu'on voit beaucoup d'instruments qui sont achetés pour servir à rien. Donc, il y a les profils de location plutôt que d'achat. Il y a les profils de réusage, avec le cycle de vie d'instruments qui est extrêmement long. De toute façon, quand l'instrument de qualité, il est plus long que le cycle de la vie musicale du musicien. Donc forcément, il y a ce cycle d'aller-retour. Mais ce travail sur les commence dès l'origine du bois avec ses réflexions, ses initiatives qui consistent à aller voir l'ONF à côté en disant mais donc tes arbres, mais pourquoi tu laisses ta boue pourrir, ce qui est quand même une bonne question, n'est-il pas?
Mais ce qui était un crève-cœur pour lui, hein.
Mais bien sûr. On est d'accord.
C'est-à-dire que pour tous, c'est un crève-cœur, tous et toutes de l'ONF, c'est un crève-cœur.
Ils
sont désarmés. Et il faut dire la réalité du terrain, c'est-à-dire que là, l'ONF se réduit comme peau de chagrin.
Oui.
Et qu'en fait, ils ont des superficies, des parcelles de plus en plus importantes à gérer, et ils ne sont pas capables de les gérer avec le dérèglement climatique et le réchauffement, où, en tout cas, nous, par exemple, en Bourgogne, les hêtres se déciment et font tout. Donc, où il y a la réflexion de qu'est-ce qu'on plante derrière, qu'est-ce qui va être adapté vraiment au climat futur. Et juste pour finir, après, je vais arrêter parce que sinon je ne suis pas là, il faut me dire comment.
Sur
les scieurs, sur le sillage et sur l'industrie, parce qu'on est liés tous, facteurs d'instruments, on est liés à cette industrie-là. Des scieurs, ils sont comme nous en fait, c'est-à-dire qu'ils veulent bouffer et payer leurs factures. Et donc, ils font ce que l'industrie d'après leur demande. Et ils ont la tête entre le marteau et l'enclume. Qui est l'industrie vraiment au-dessus et la forêt en elle-même, sur laquelle on ne peut pas hyper peser et changer les choses, c'est la nature, ça s'appelle. Donc, ils vont à ce qui va les faire vivre, et donc ils vont sur des choses normées. Et donc, on norme les banksias comme on norme les arbres qu'on plante. Après, on ne s'étonnera pas des ravageurs qui arrivent dans des forêts avec une seule espèce et où on vulgaire manger. Mais c'est le problème, c'est-à-dire que nous, nos métiers, on n'est pas dans la norme en fait. Alors on n'est peut-être pas dans le coup du tout par rapport à la modernité, mais en fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est ce que j'entendais tout à l'heure, c'est qu'on est dans des métiers où on veut garder, on a ces savoirs. Ancestraux, plus ou moins, en guitare c'est un peu plus jeune, encore plus en guitare électrique, c'est après la Seconde Guerre, et c'est un pur produit d'industrialisation. Mais on va un peu contrebandé-marée par rapport à tout ça, mais il faut des Indiens toujours, il en faut toujours.
Absolument, merci beaucoup, et tu pourras revenir, on va maintenant refaire un zoom, on remonte. On dézoome plus exactement pour avoir une vision plus large. Juste pour conclure ça, on voit bien que très faible utilisateur de bois, petite consommation, c'est trop petit par rapport à ce qu'on a, mais une responsabilité conscientisée et engagée. Pour se dire, à partir du moment où on utilise du bois, on est responsable de quelque chose, et c'est vrai que les luthiers et facteurs qui travaillent le bois, tous ceux que je connais, ce sont des amoureux du bois. Ça, c'est très clair. On pourra parler d'autres choses après. Chloé, à toi la main pour nous parler de cet incroyable projet d'Arviva qui est un peu comme cette grume qui reste abandonnée, et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qui est un peu comme ça, le projet Arviva. C'est un peu né comme ça en fait.
Oui, en fait, l'association Arviva est née en 2020, donc pleine crise Covid, par des professionnels du spectacle vivant, en l'occurrence du secteur de la musique, mais l'association s'adresse bien à tout le secteur du spectacle vivant. Et donc en 2020, on part un peu de ce double constat que le spectacle vivant est à la fois extrêmement vulnérable à la transition, enfin la transition en fait aux impacts environnementaux et notamment au changement climatique, et on pourrait y revenir mais sur plein de choses, mais également qu'il a un rôle important à jouer, on en parlait tout à l'heure, notamment sur le rôle des artistes, il y a d'autres aspects sur lesquels le spectacle peut jouer, notamment le fait d'être une plateforme qui vient faire discuter certains acteurs qui ne se rencontrent jamais. On a nous des exemples de festivals qui font faire des choses incroyables à leur territoire parce que c'est un endroit où des gens se parlent alors que d'habitude ils ne se parlent pas. Donc de ce double constat est né Arviva. Je vais essayer, alors si j'avais su, j'aurais apporté une petite illustration. C'est toujours un peu compliqué de parler de ce qu'on fait parce que c'est assez tentaculaire. Mais je vais essayer de vous le résumer. On a différents modes d'action, mais globalement, nous, ce qu'on est, c'est un peu une plateforme, un lieu dans lequel on permet d'avoir un espace pour que les acteurs du spectacle au sens très large puissent discuter, donc avec globalement comme stratégie principale l'échange entre pairs. Ces échanges-là, ils débouchent sur la création d'outils, on analyse aussi le secteur, donc on a pas mal d'études qui sont sorties, je pourrais en parler plus en détail ensuite. On valorise aussi des initiatives qui sont inspirantes. Et comme structuration de l'association, en fait, nous, comme on a un peu une vision assez systémique, on va dire, de la transition écologique, c'est-à-dire qu'on est persuadé que si on reste dans notre coin tout seul à un petit secteur ou alors un petit morceau du secteur, on ne va pas s'en sortir, et que de toute façon, pour faire des changements à plus grande échelle, une fois qu'on a dépassé ce stade, on va dire, de l'éco-geste, de faire chacun sa part, et bien, il y a bien un moment où il faut qu'on discute tous ensemble, notamment avec les institutions. C'est pour ça qu'on est scindé en 4 collèges. On a un collège professionnel du spectacle vivant, dans lequel il y a énormément de diversité d'acteurs, puisqu'on est toute typologie, donc des compagnies, des festivals, des lieux, et toute esthétique, donc musique, mais pas seulement, je le disais tout à l'heure, théâtre, cirque, danse, et plein d'autres que je ne peux pas nommer en entier. On a aussi un autre collège, qui est le collège des réseaux et syndicats, un autre collège qui est celui des éco-consultants-consultants, donc des professionnels qui travaillent un peu à cette jonction entre le spectacle et l'environnement. Et puis, on a, depuis récemment, des collectivités. Puisque, ben, en fait, quand je vous entendais parler, j'entendais bien qu'il y avait ce lien qui avait été créé notamment avec l'ONF, et qu'en fait, il y a un moment où, pour passer à l'étape supérieure, on est un peu obligé d'avoir ces discussions-là, et donc d'avoir des plateformes pour le faire. Donc, c'est un petit peu notre mode d'action. Je ne sais pas jusqu'où aller dans la présentation d'Arviva, mais je peux vous nommer un petit peu des choses qu'on a fait.
Oui, ça me paraît bien.
Oui, et ben, je peux vous nommer quelques travaux, en tout cas quelques perspectives qui ont émergé donc, depuis la naissance de l'association. On a notamment un calculateur d'empreinte environnementale lié au spectacle qui s'appelle SEED, simulateur d'empreinte environnementale du spectacle, qui permet de calculer son empreinte environnementale selon 3 axes. En fait, c'était un outil qui était pionnier. Il n'en existait pas au moment où c'est sorti en 2022. C'est le fruit du travail avec de nombreux professionnels du spectacle. Ça n'a pas été fait juste par Arviva dans son coin. Peut-être que j'ai oublié de notifier, mais on est 3 salariés en CDI, donc de toute manière, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Mais l'idée, justement, dans ce premier travail-là, en fait, souvent quand on regarde les calculateurs, on va beaucoup regarder le carbone, on entend carbone, on pense carbone, on vit carbone, souvent parce que c'est aussi le relié à un des enjeux qu'on connaît bien, le changement climatique, mais aussi que ça se calcule et qu'on aime ça, les chiffres, on aime pouvoir jauger, voir des choses tangibles. Malheureusement, ça écarte beaucoup de pans du problème, notamment la biodiversité et les ressources. Bon, on est en plein dedans. Et donc dans ce calculateur, on a intégré un score ressources, on a intégré un score biodiversité qu'on a créé sur mesure avec des cabinets d'études pour l'occasion. Donc ça, c'est un peu notre outil phare, on va dire, qui vient déjà un peu faire écho à ce que vous avez évoqué. En lien avec ça, on a des formations notamment pour apprendre à mesurer, mais aussi à comprendre que mesurer, ce n'est pas suffisant et que c'est qu'une étape pour passer à l'action et que l'important, c'est finalement de s'acculturer à ces enjeux. On publie aussi pas mal d'études. On a des études, là, la dernière en date, sur justement comment les collectivités territoriales accompagnent la transformation du spectacle. Et donc ça, c'est une publication qui date de mars 2026. On a d'autres publications en tout genre sur les mobilités de spectacle, sur comment le secteur peut s'adapter pour éviter de subir, c'est le nom de la publication, s'adapter maintenant pour ne pas subir demain, donc c'est assez évocateur. Ça relève aussi de la vulnérabilité du secteur. Et en fait, on se situe vraiment avec cette association à un niveau, je le disais tout à l'heure, systémique, puisque on se rend bien compte, quand je vous entendais parler, je me disais, mais en fait, c'est, tout ça, c'est des enjeux de coopération. On a sorti aussi une étude avec le laboratoire Atemis sur l'importance de la coopération, pardon. Et en fait, on est rendu là maintenant. On commence à mieux connaître les impacts, on comprend les impacts, on sait finalement, on commence à comprendre ce qu'il faut faire, mais maintenant c'est comment on fait, comment on dépasse l'action, l'agir seul. Et donc nous, on a vraiment cet objectif de un peu, je sais pas si c'est catalyseur, mais en tout cas c'est d'essayer de mettre les bonnes personnes autour de la table pour qu'elles discutent à des endroits où elles ne peuvent pas forcément le faire. Et c'est ce qu'on fait notamment à l'occasion d'un autre de nos bonnes actions, qui est l'organisation de journées d'études. Donc on organise assez régulièrement des journées d'études. Là, on en organise une justement demain à la S93. Malheureusement, c'est plein, mais c'est sur les changements qui ont lieu dans les métiers. Et en fait, le fait que vous soyez là, je pense que ça le montre bien. Tous les métiers sont impactés dans toute la chaîne de valeur du spectacle vivant. Donc on va essayer un peu de travailler ça. On organise des rencontres annuelles, les rencontres annuelles pour l'écologie dans le spectacle vivant, tous les ans. Cette année, si vous voulez venir, ce sera dans le Nord, vraiment l'opposé. Ce sera le 3, 4 et 5 novembre à Los Angeles, à côté de Lens. Mais l'année prochaine, on a déjà le lieu, et c'est en septembre à Chambéry. Donc peut-être qu'on aura plus de chance de vous y croiser. Donc vraiment avec toujours cet objectif de rassembler des gens. Et on a aussi des projets de recherche-action, qui aujourd'hui un peu... On croit aussi, et je pense que c'est un peu cette journée est un peu aussi un témoin de ça, de comment on peut rapprocher les différents secteurs, notamment le secteur de la recherche, pour pouvoir aller dans le sens de la transition écologique, en ne mettant pas de côté les métiers, les savoir-faire qu'on a évoqués notamment juste avant, avec différents projets en cours. On a un projet qui s'appelle le projet RAP, on aime beaucoup les acronymes, vous verrez, recherche action participative, où on met en lien des stagiaires de Master Culture, Patrimoine et Médiation de Nantes, qui vont résoudre des problématiques environnementales dans des structures de spectacle. On a le projet PISTE, qui est un projet qui vise à favoriser la participation des intermittents dans les structures de spectacle, où là, on s'est rendu compte qu'il y avait des absents autour de la table quand on discutait spectacle vivant, et il s'agissait des intermittents. Donc là, c'était de la recherche-action qui vise à les intégrer dans différentes structures. J'ai pas les noms en tête, mais notamment MC93, le Théâtre de Rungis, la Scène de Rouen, bon, je ne les nomme pas toutes, mais vous les retrouverez sur notre site. Et on a en ce moment une étude aussi qui est portée par Atemis sur la mutualisation des LED. Et d'ailleurs, on parlait des voix tout à l'heure, je pensais aussi à ce sujet de la mutualisation. Je me disais, bah, nous finalement, on parle de mutualisation des LED, en ce moment on est sur cette étude, mais il y a plein d'autres façons de mutualiser, plein d'autres chantiers qui se font, mais en fait c'est les mêmes enjeux sur cette mutualisation. C'est comment on fait pour tous se retrouver autour de, en l'occurrence ici, ce bois. Comment on fait pour connaître les sources, qui va le stocker, qui va le déplacer. Bon, bah, là, il y a des enjeux de coupe en plus. Enfin, en fait, c'est vraiment des sujets qui peuvent avoir l'air complètement à l'opposé, en fait, qui ont besoin d'un cadre pour pouvoir se structurer. Et j'ai l'impression que c'est... Même si aujourd'hui, on n'a pas encore traité le sujet de la...
Les
instruments de musique au sein de l'association, ça pourrait complètement avoir sa place, parce qu'en fait, ça fait écho à énormément d'autres thématiques.
Et d'autant plus qu'on a un enjeu central commun, qui est le musicien. Et là, on va faire écho à notre première journée, c'est-à-dire comment concevoir le spectacle vivant, la musique, sans avoir le musicien et donc son instrument au cœur de l'image. Et qui est quand même qui est un petit peu la question récurrente qui va aller de table ronde en table ronde. Et peut-être, Jacques, tu peux revenir sur... tu nous as dit, tu sais que tu es très fier pour les rescrits fiscaux, mais en fait, c'était pas ça quand même. On n'a pas fait ça pour ça. Tu es arrivé parce que, en fait, c'était d'intérêt général. Et c'était d'intérêt général parce qu'on s'est dit que. On s'est dit quoi par rapport aux musiciens ? Quelle était sa place dans l'aventure de notre réflexion sur la transition écologique ?
Il avait aussi une responsabilité, c'est-à-dire de prendre conscience que son instrument, il est fait avec des jolis bois, mais que ces jolis bois sont menacés et que, en tant que consommateur, son acte d'achat a une responsabilité. Donc l'idée, c'est effectivement de l'intégrer dans cette chaîne. Et puis, quand on a eu la chance effectivement de rencontrer Olivier Gué qui s'engage sur la nature, moi j'aimerais qu'il y ait d'autres musiciens qui s'engagent. Donc,
voilà. Donc en fait, c'était bien le projet. Hein. J'étais pas très loin de la création du projet. Le projet, c'était de dire c'est une responsabilité partagée et que nous, notre transition, alors que ça soit donc sur les bois, les autres matériaux, l'éthique de la production, est-il bien normal que 98% des instruments vendus en France soient importés? Est-il normal de raisonner que les musiciens raisonnent au coût le plus bas pour l'achat de leurs cordes, privilégiant systématiquement de la vente en ligne à l'étranger, plutôt que favoriser une approche locale, et etc. Et on voit bien que ces questions-là, nous, on peut faire. On a une, c'est notre responsabilité première de nous saisir des problèmes techniques, des enjeux, mais que sans les musiciens, ça semble un petit peu vain d'essayer de. Quoi. On n'y arrivera pas. Vas-y, Philippe.
Oui, en fait, c'est un peu comme la malbouffe.
Oui.
C'est-à-dire que si on veut que ça cesse, à un moment, il faut juste arrêter d'en consommer. Pour les musiciens, c'est pareil, moi, en atelier, et en guitare, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être même limite plus touché que dans quoi tu vois, avec les instruments vraiment bas de gamme. Oui, en tout cas, des instruments pas chers, et ces rageants, mais qui parfois sont pas trop mal faits quand même. C'est ça qui est fou. Moi, ce que je vois là, depuis 10 ans, c'est la vision qu'ont les musiciens de leur instrument, pour une grande partie en tout cas, c'est un bien de consommation. Et là, là c'est pas possible en fait. On n'est pas sur un bien de consommation. On est sur un médium qui est censé faire passer des émotions intérieures et les faire ressortir. C'est pas un bien de consommation. Voilà. Une télé, une voiture, c'est un bien de consommation, pas un instrument de musique. Mais donc, si intrinsèquement ils ont ça en tête, bien sûr que non, ils ne feront pas réparer. Limite, il y a une corde cassée, on va en racheter une, je l'ai entendu déjà. Là, ça devient un peu fou, en extrême. Voilà. Et après, j'ai les gens qui viennent à l'atelier pour une fabrication, par exemple, on dit, ben, je veux telle bois, telle bois, telle bois, telle bois, telle bois. Donc ma question est toujours, ok, pourquoi? Parce que ça sonne. Voilà la réponse. J'adore. Et en général, tous les bois qu'ils me citent, ce sont des bois exo. En tout cas, pas endémiques. Voilà. Et même le frêne qu'ils me citent n'est pas le frêne de chez nous, hein, l'Excelsior, c'est de l'Americana, donc le frêne des marais.
Qui est en train de mourir aussi.
Et donc là où les prix ont explosé, voilà. Et après, ben, c'est là où moi je me dis que je sème, j'espère, semer ma petite graine. Et que ben, j'essaie de les faire réfléchir et de leur dire, mais pourquoi vous voulez ce bois-là? Est-ce que vous pensez vraiment que, si je prends l'exemple du frêne par exemple, est-ce que vous pensez que le frêne qui aura traversé l'Atlantique, il va mieux sonner que le frêne de chez nous? Je ne le crois pas. Voilà. Surtout dans un instrument électrique. Voilà. Et dans un instrument, dans une guitare acoustique aussi, je serais assez curieux de pouvoir faire un blind test entre une guitare faite en frêne, en Fractionus Americana et ou en Excelsior. Je pense avoir des oreilles pas trop mauvaises, je suis pas certain de faire la différence. Donc voilà, et là on commence à parler avec eux d'impact écologique, de transport. Là je parle du frêne, c'est gentil, c'est aux États-Unis, mais tous les bois africains, tous les bois, comment ils sont coupés, par qui ils sont coupés, qui détient les coupes, qui gère les coupes, mais en général, c'est pas très clean. Donc, en tout cas, loin des yeux, loin du cœur. Donc, je leur dis, ben, on peut arriver à faire quelque chose d'équivalent. Alors, parfois, c'est difficile, l'équivalent de l'ébène, par exemple, est très difficile à voir, le cornier, on s'en rapproche. Après, eh ben, c'est aussi aux musiciens, effectivement, de... Il y en a qui ont la fibre, parce qu'ils l'ont en général, mais dans leur vie, donc ils y vont. Mais par exemple, en guitare classique, c'est très compliqué pour discuter avec le président de la PLG qui, lui, est l'utilitaire classique. Les guitaristes classiques ont du mal à se détacher, par exemple, de la touche en ébène. Et quand on leur propose autre chose, ils n'en veulent pas.
Oui, et donc on voit bien que là, il y a tout un travail collectif à faire sur ces questions, qui est un travail d'éducation, mais de responsabilité. Et cette responsabilité, alors, tu l'as évoqué un peu avec l'ONF, mais en fait, sur les bois exotiques, le bois dense qui existait avant les bois exotiques, c'était le buis. Le buis, ça pousse 15 fois plus lentement que tout bois exotique dense aussi. Et du coup, ça serait impossible de dire on arrête le bois exotique pour aller raser absolument tout ce qui peut rester comme buis à l'heure actuelle. Donc, c'était juste au point où je voulais arriver, c'est-à-dire peu importe où pousse l'arbre, simplement que tu es proche, on voit mieux toute la chaîne. Donc c'est plus facile d'avoir de la transparence, mais la responsabilité et de la durabilité, elle est exactement la même que l'arbre qui pousse à 500 mètres de chez toi qu'à 5000 km. C'est quelque chose d'important. Je te laisse rebondir et tu pourras parler, Jacques, peut-être des projets qu'on soutient par ailleurs, notamment en Tanzanie.
Oui, alors il y a effectivement deux
mais
projets.
Oui, je pense que la jeune génération qui arrive, les 15-20 ans, que je commence à voir mon atelier là, commence à avoir cette conscience globale là. Parce qu'ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas aveugles, ils voient bien, ils regardent la télé, voilà. Et donc ils voient bien que ça part en vrille dans tous les sens et qu'il va falloir trouver des moyens de se préserver et de pouvoir continuer juste à vivre. Et ça en fait partie, ça, tout l'aspect écologique. Et essayer de revenir sur des choses plus locales. Voilà, tu parlais des cordes, moi je n'utilise maintenant plus que des cordes françaises. Et j'essaye.
Il y a encore un fabricant.
Et pour le coup, que je propose, et voilà, et les gens, au moins les gens testent. 9 personnes sur 10, ils vont. Après, est-ce que de leur propre chef, ils vont au magasin de musique acheter ces cordes-là? J'en sais rien, mais en tout cas, au moins ils auront testé, ils vont se dire ça, que ça existe. Et bon, allez, les petites graines se mettent. Voilà.
Et en fait, avant que l'initiative naisse, il y avait deux initiatives de représentation. L'une pour les instruments avant, donc les clarinettes avec le bois de grenadine, qui est le dernier jamais à l'Occident et qui pousse en Tanzanie et au Mozambique principalement. Et l'initiative existait déjà depuis 1996 en Tanzanie, qui était soutenue par une association américaine, qui commence effectivement à devenir un peu obsolète parce que les personnes vieillissent.
Et, mais qui était à l'initiative d'un botaniste tanzanien.
Voilà, tout à fait. Et donc, les fabricants d'instruments avant, effectivement, donnaient à cette association, et on a dit, on va prendre le relais, c'est au point de fiscalité. Donc, on pourrait donner plus de sous, hein, parce que ce sont des entreprises, hein, faut pas passer, là. Et donc, du coup, on a pris en charge cette initiative, et on a demandé aux Tanzaniens de créer une association locale. Parce que pour la fiscalité française, il faut que ce soit fléché. Parce qu'ils m'ont dit, d'accord, on donne leur respect fiscal, mais on veut bien savoir là où va l'argent et là où vont les plantations. Donc on a demandé effectivement aux acteurs tanzaniens de créer cette association. Et donc voilà, on travaille avec eux maintenant pour quelque chose de plus pérenne. Et il y a une autre initiative qui pour l'instant est en stand-by, c'est la replantation du Pernambouc, le pot brésilien Equinata, qui pousse exclusivement au Brésil, qui était replanté depuis les années 2000 par une association qui est l'IPCI, des archetiers pour de la conservation, et donc ils ont planté depuis plus de 20 ans 340 000 arbres. Sauf que l'État brésilien ne reconnaît pas ces plantations, alors qu'il y en a eu des millions d'arbres qui ont été plantés eux-mêmes par les Brésiliens. Donc il y a eu des guerres en fait avec le Brésil, et donc dès lors que ça commence effectivement à des négociations pour que ces plantations puissent être inventoriées et être utilisées dans la facture instrumentale, on voit un peu le bout du tunnel. Donc l'idée, c'est dès lors qu'on aura cette autorisation, de financer à nouveau ces plantations pour faire perdurer. Il faut savoir que le pernambouc, en France, on utilise 15 seuls arbres par an. Parce qu'on fabrique très peu d'archers, mais des archers très haut de gamme. Et donc on a replanté 340 000.
Alors, pour revenir sur le projet tanzanien, l'idée de Sébastien Chua, qui était le botaniste tanzanien à l'origine de ce projet, c'était, lui, il est originaire des pentes du Kilimandjaro, et il voulait valoriser la flore locale et notamment la diversité d'arbres. Et il a œuvré, et c'est amusant parce qu'au Brésil, c'est passé la même chose quelques années avant, œuvré pour que ce bois de grenadille, le Mpingo en swahili, devienne un espèce d'art national, quelque chose qu'on chérit, qu'on respecte et qui est valorisé. Et donc, il a cette proposition, elle est incroyable parce que c'est à la fois une pépinière. Nous, on a des scientifiques européens qui nous en sont venus encore l'année dernière qu'il n'était pas possible de reproduire artificiellement cet arbre. Lui, heureusement qu'il ne le savait pas en 90 quand il a monté son projet, parce que voilà, et ça, en fait, ça pousse bien. Donc, avec l'idée que c'est un arbre à pousse assez lente, il faut à peu près 80 ans pour pouvoir l'exploiter. Donc c'est au-delà d'une génération humaine, et donc qu'il fallait le confier à des communautés. Pour qu'il ait, parce que si on plante juste un petit bout au milieu de je sais pas quoi, il y a toutes les chances pour qu'il disparaisse. Et puis à ces communautés qui étaient au départ des communautés religieuses ou des écoles, qui avaient un peu de terrain autour d'elles, on pouvait le mettre, est associé de la d'autres plantations qui sont immédiatement productives, des arbres fruitiers, des choses comme ça, de manière à ce que ça crée un intérêt et avec une forte dimension pédagogique. Pour les enfants des écoles qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs du projet. Donc c'est un projet absolument fabuleux. Jacques est un grand expert des associations, des statuts associatifs, a fait un gros travail d'accompagnement parce que le fondateur est décédé, ce sont ses deux fils qui ont repris, qui sont jeunes, qui ont fait des études pour travailler la préservation et qui ont été financés par cette association américaine pour reprendre le projet. Maintenant, ils arrivent à l'âge où ils se prêtent pleinement au projet. C'est l'heure aussi où c'est les Tanzaniens, maintenant c'est une association d'ONG tanzanienne, c'est l'heure à donner. Et nous, on est là pour apporter des fonds de façon structurée avec ces conventions qui nous permettent cette fameuse défiscalisation, la fin du problème. Et tout ça pour dire que la responsabilité, la transition écologique, on voit bien qu'elle est... c'est pas parce que c'est planté à l'autre bout du monde que c'est forcément naze et qu'il faut forcément les abandonner. Et quand... Bernambouc, évidemment, ça c'est une autre histoire. Mais là, on a un premier matériau alternatif à l'espèce sauvage dont on ne veut plus utiliser parce qu'elle est en train. C'est justement le bois de replantation. Mais encore faut-il qu'il ait une existence administrative. Et évidemment, c'est un problème.
Moi, je dois en laisser parce que j'ai mon train. Donc, pour les questions-réponses, hein, je fais confiance à Philippe, qui fait partie de la PFG, mais aussi de l'initiative Arbre de Musique. Idem pour Fanny, idem pour Coraline. Je suis en train de faire. Donc, merci. Et puis voilà.
Merci beaucoup, Jacques. On peut applaudir Jacques. Hein. Quelques minutes de retard, mais on peut ça. Chloé, maintenant qu'on a expliqué en long, large carré, en te prenant en trois captives, malheureuse Chloé, sur le fait que le musicien, nous on aimerait bien l'avoir au milieu de l'image plutôt que à côté, on peut aussi, on pourrait continuer sur les enjeux de mobilité du musicien avec son instrument. S'il faut prendre le train, il faut pouvoir prendre le train. Je te laisse la main et puis après préparer une ou deux questions avant qu'on arrive à la fin.
Je ne sais pas si tu voulais que j'aborde certains points précis.
Tu as le droit de choisir.
J'ai le droit de choisir. Non, mais en fait, moi j'ai presque des questions à vous poser parce que ça m'intéresse vraiment. C'était passionnant de vous écouter. Je me demande en fait qu'est-ce qui manque pour passer un peu, je ne sais pas si c'est l'échelle supérieure, mais en tout cas pour pouvoir par exemple diffuser le travail que vous faites, de ce rapprochement avec l'ONF, donc en fait on comprend que c'est finalement presque un heureux hasard que vous l'ayez rencontré, enfin c'est vraiment une volonté personnelle, voilà, ça part de vous, et je me demande en fait, qu'est-ce qui manque pour que cette volonté personnelle puisse se développer, pour qu'on puisse imaginer d'autres initiatives comme ça, à d'autres endroits de la France, où d'autres personnes puissent se mettre en relation avec l'ONF, d'autres outils.
En fait, on l'a imaginé, ça. Après, se pose encore et toujours une question logistique, des problèmes logistiques. J'ai la chance, moi, d'être à la campagne, je suis à 20 km au nord de Dijon, mais voilà, je suis à la campagne. Une grande partie des luthiers sont en ville, donc déjà, le stockage, c'est pas la même. Donc, stocker des prédébits, voilà, donc des bois qui sont déjà dans des dimensions standardisées pour le coup, voilà, ok. Stocker 50 mètres cubes, bon. Donc, ça, c'est vraiment complexe, la première chose. Ensuite, je ne veux pas me sembler résigné, mais c'est David contre Goliath. Et donc, on ne gagnera pas. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je pense. On ne gagnera pas contre l'industrie. C'est pas possible. Il faut donc s'acheter une conscience, préserver sa conscience. On va dire comme ça. En faisant ce que j'essaye de faire, ce que Jacques fait, et c'est pas parce que j'aurais dû le dire quand il était encore là, mais c'est grâce à lui aussi, tout ça. Voilà, c'est lui qui. C'est un moteur.
C'est un catalyseur.
C'est un catalyseur, complètement. Donc voilà, parce que moi, cette initiative-là, au départ, je l'ai faite pour moi, comment dire, pas pour tout garder, mais je n'avais pas en tête que, bah oui, en fait, je peux le partager avec les copains et les copines, enfin voilà, il n'y a pas, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, il faut que ça vive. Bon.
Les luthiers sont un peu écureuils avec le bois, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu compulsif avec le stockage du bois.
Ça peut toujours te servir, hein. La preuve, au moins une fois par an, on se dit « Ah tiens, j'ai bien fait de garder ça. » Donc voilà, donc je ne veux pas paraître défaitiste, c'est juste que voilà, je me dis, à notre petite échelle, nous, de ce que je connais de la lutherie en guitare, à part la guitare classique, mais à part la guitare classique, même si elle a fait comme les autres, elle a basculé du côté obscur de l'industrie, la guitare électrique, par exemple, qui est un pur produit, c'est du Fordisme à l'état pur, c'est de l'industrialisation. Hein. C'est un corps d'un côté, un manche de l'autre, donc deux chaînes de fabrication. À la fin, il y a quelqu'un qui met quatre boulons, enfin, quatre vis, et des cordes, et ça fait une guitare. Je résume, mais c'est vrai. On ne peut pas, de toute façon, et là on revient sur les coûts de fabrication, et le taux horaire, et tout ça, on ne peut pas rivaliser avec l'industrie, c'est pas possible. Donc il faut trouver d'autres moyens de faire comme nous on ne peut pas le faire, c'est aux musiciens d'éventuellement se dire ben, j'ai le choix entre une marque américaine super connue et d'aller voir mon luthier qui a 20 bornes et qui va me faire quelque chose avec des bois locaux qu'il va sûrement même récolter lui-même et donc faire de l'économie circulaire. Hein, injecter de l'argent vraiment direct et c'est du main à main, c'est pas aller mettre de l'argent dans un trust quelconque, voilà, c'est parti, voilà, ça se volatilise. Donc, ça, on ne peut pas obliger les gens, on n'a pas le droit.
Non, mais je pense que. Et donc, c'est une prise de conscience collective, en fait.
Ouais.
Et si on revient sur ce qu'on s'était dit ce matin, autour de la notion d'économie et de ce réseau de proximité qu'on a, en fait, la meilleure chance de réussite de ce réseau de proximité, c'est d'être. D'avoir son identité, sa force, son message, ses valeurs. Là, on se retrouve complètement. Mais voilà, il va falloir que les gens se convainquent que plutôt qu'acheter le dernier iPhone, ils peuvent s'acheter une belle guitare. Ça coûte un peu plus cher. Et deux, je ne sais pas combien ça coûte un iPhone, en fait. Alors, je ne sais pas combien tu coûtes tes guitares. Je ne sais pas si c'est un iPhone 2, iPhone 3, iPhone. Mais voilà. En fait, c'est des questions de choix, d'opportunité. On a alors un autre enjeu qui n'est alors pas dans le champ d'Arriva, hein, mais il y a des gens qui gravitent dans ce monde-là, qui sont des collectivités publiques, qui devraient aussi réfléchir à l'utilisation d'argent public pour en avoir une utilisation responsable et durable, ce qu'ils ne font rarement avec un instrument de musique. Et donc, on voit bien que Il y a, alors nous, au sein de la CSFU, pour répondre à comment on systémise ça, c'est un travail alors qu'on a commencé à mener de la création de cette feuille de route du secteur, du répertoire de... Mais il y a des milliers d'initiatives vertueuses avec des idées différentes, ce qui concerne l'industrie, qui concerne les artisans, donc on peut déjà catégoriser, mais... Tu n'étais peut-être pas arrivé. On voyait que dans l'implication des professionnels du secteur, dans ce qu'ils font comme soutien à la vie musicale, c'était combien ? Rappelez-moi, 38% qui va rien du tout, 41%. 41% des actions qu'ils font pour soutenir la vie musicale, ils ne la valorisent pas du tout. Donc on ne s'étonne pas que. Donc il faut apprendre à valoriser, rendre visible. Je pense que c'est peut-être l'axe le plus efficace, c'est de rendre visible des actions qui peuvent être ponctuelles, mais qui donnent une inspiration, en fait.
Mais justement, c'est quand je vous entendais parler, c'est ce que je me disais, où ça peut être assez désespérant, finalement, d'être face à ces industries. Et encore, j'entendais que vous avez déjà commencé à penser des ponts de discussion avec certaines d'entre elles, ce qui est déjà assez cool, puisque c'est un peu la deuxième étape. Mais je pense qu'il y a aussi un réel intérêt à montrer ce qui se fait. On emploie souvent le mot dans les interstices, en fait, enfin, je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui n'est pas dans la norme, qui est à la marge. D'ailleurs, le secteur de la culture et du spectacle est dans cette marge, dans cette norme, et en fait, ça permet quand même justement d'avoir ce... Je ne sais pas si c'est une exemplarité, mais en tout cas, on se permet d'avoir un autre modèle. On montre que c'est possible. Bon, bah, c'est peut-être possible dans une plus petite structure, mais il y a au moins ça. Et en fait, nous, ce qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est que à l'origine, les gens qui faisaient, enfin, les compagnies, les festivals qui faisaient de l'écologie, c'était surtout les plus petits, en fait, parce que bah, c'était de l'écologie, soit, bon, il y avait quand même une histoire de valeur, mais il y avait aussi tout ce que ça permettait en termes d'économie. Et aujourd'hui, on observe de plus en plus de grosses structures se saisir des enjeux, mais ça prend énormément de temps. Ceci étant dit, je suis persuadée qu'en reliant avec ce que tu disais sur cet aspect de visibilité, de communiquer autour de ça, on peut, en partant de ces petites, et je dis petites parce que c'est quand même un grand investissement, de ces actions-là, remonter un peu la chaîne et peut-être toucher des plus gros, peut-être pas à une échelle de l'industrie, en tout cas peut-être pas dans ce siècle, mais moi je suis persuadée qu'il y a quand même, un réel impact, et c'est aussi là que se joue l'impact, enfin tout le secteur culturel a un peu cette, je sais pas si c'est une aura, mais en tout cas on arrive avec l'esprit ouvert et on a un peu cette vision du spectacle qui peut être, en tout cas c'est pour ça qu'elle s'est écrite là, sur ce double enjeu de la possibilité de prendre le secteur pour pouvoir inspirer les autres par ces activités-là et par plein de...
Et être source d'inspiration. Donc voilà. Donc on va peut-être prendre une ou deux questions parce que autrement là on est en train de déborder. C'est mal. On est à la limite de le timing jusque là. Mais du coup on est sur la phase conclusion. Vous avez bien compris, hein? Donc est-ce que les uns et les autres veulent réagir dans la salle? On vous laisse quoi, hein? Si. Oui, Christine, et après Bernard.
Oui, bon, merci à tous. Il y a juste une chose que je n'ai pas comprise. Si des dizaines de milliers de boîtes permanentes ont été plantées,
oui.
Pourquoi faut-il une validation par le Brésil d'un point de vue juridique pour avoir le droit de s'en servir pour faire des objets?
Parce que... Alors... Oui, tout. En fait, c'est finalement assez simple. Le commerce du bois au Brésil est complètement réglementé. Donc, dès que tu commercialises du bois, il faut qu'il ait une autorisation. Ouais, mais pour donner une autorisation, quand tu n'as pas de papier, tu as du mal à obtenir un visa, si tu veux.
D'accord.
Si ta naissance, si tu n'as pas d'acte de naissance, tu n'obtiendras pas de passeport et tu n'obtiendras pas de visa. Et en fait, c'est des choses qui sont connues par le ministère de l'Agriculture brésilien, mais pas par le ministère de la Transition écologique. Et en plus, sur ces questions-là, il y a un fort enjeu symbolique, qui est que l'instrument, l'archet, le message qu'on entend très fort, c'est qu'on doit porter le poids de la colonisation, de l'esclavagisme, du pillage des ressources du Brésil, sur un arbre qui est considéré comme un arbre national, et il convient de nous punir. En fait, je pense que tous les acteurs sont, s'ils regardent un jour les chiffres, sont tous conscients que c'est complètement démesuré. C'est hallucinant cette histoire, Mais par contre, le poids symbolique, et il y a des acteurs qui tournent, qui veulent gagner des victoires.
Merci. Christine.
Merci beaucoup. Très, très intéressant et touchant aussi. Moi, j'ai deux réflexions que j'ai envie de partager avec vous. Il y en a une, c'est quelque part, j'entends en filigrane dans la substitution, l'adaptation à la substitution à des essences, l'acceptabilité ou l'acceptation à travailler du musicien. J'ai pas entendu, en tout cas, dans le temps que j'ai pu être avec vous, celle du public. Tous les musiciens ne se destinent pas à un jeu en public, mais il me semble qu'il y a là aussi un frein à l'adoption des innovations de substitution et peut-être une pédagogie ou un travail à faire. Ça, c'était une première réflexion. La deuxième, ça touche ce que vous décriviez sur la forêt, qui est un espace que j'ai beaucoup travaillé. Je prends un instant pour une incise. Moi, petite, j'ai replanté pas mal d'arbres avec mon papa. J'étais derrière lui, creusé, j'étais épicé dans votre espèce, etc. Et il y a quelques semaines, je suis repassée dans des parcelles que j'avais plantées. Alors, bon, la forêt s'est transformée, il y a les espaces, on teste quelles espèces pour s'adapter. Et j'ai deux images qui m'ont beaucoup choquée. La première, c'est qu'avant que je retrouve ma parcelle, j'ai erré dans la forêt, alors je pensais la connaître par cœur. Et que j'ai croisé des hêtres éventrés, des énormes grumes tombées, des trous d'arbres, l'image qui m'est venue, c'est un champ de bataille en 18. Et les frênes, les chênes, les hêtres, toutes les autres espèces, c'est un effroi terrible. Et c'est, je crois, dans la lutherie, j'ai dit tout à l'heure de manière un peu provocatrice, on est trop petit là, pour jouer. Et en même temps, c'est un espace qui, en tant que chercheur, est un cas critique, au sens où il cristallise absolument des objets qu'on veut étudier. Et ce qu'on évoque ici, c'est toute la question de la forêt, qu'on a considérée comme une exploitation forestière, qui a aussi des dimensions symboliques. C'était le seigneur qui avait le droit de chasse. On peut en parler très très longuement. Mais là où le spectacle vivant dont je peux aussi sur lequel je peux avoir un regard, c'est emparer du sujet de la transition par conviction, par volonté d'agir, par chemin politique. La lutherie, c'est pas que ça, si ça l'est, c'est le cœur même du métier, que d'avoir des essences, que d'avoir des arbres qui dans 50 ans seront encore là, etc. Et donc on est au cœur même de la vie de ce métier, et voilà, j'aurais très envie de poursuivre la discussion ici, mais en tout cas merci beaucoup.
Merci Christine. Je propose que cette invitation à poursuivre la conversation soit la conclusion.